Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons donc cette très importante série concernant la rédemption. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étude numéro 18. Et le thème que nous allons avoir, c'est l'enseignement que nous donne la seconde période. Chers amis, en examinant l'histoire de la rédemption, nous avons montré comment cette œuvre s'est poursuivie pendant les deux premières des trois grandes périodes dans lesquelles nous avons divisé ce grand espace de temps, à savoir de la chute jusqu'à l'incarnation de Christ et de la fin de l'humiliation de Christ. Dans la première de ces périodes, nous avons surtout expliqué comment Dieu a préparé la voie pour l'apparition de Christ et pour l'accomplissement de l'œuvre de rédemption. Et dans la seconde période, nous avons vu comment ce rachat a été fait et a été accompli. Je voudrais maintenant tirer quelques instructions de ce qui a été dit sur ces deux sujets considérés conjointement. Chers amis, voyez-vous, tout cela est un reproche continuel pour les incrédules, oui, pour ceux qui sont encore dans leur propre justice et pour tous ceux qui négligent le salut qui est en Jésus-Christ. Combien toutes ces choses accusent tous ceux qui ne croient pas en notre Seigneur Jésus-Christ et qui le rejette tout simplement. Oui, tous ceux qui ne le reçoivent pas dans leur cœur parce que tout simplement ils croient qu'ils en ont pas besoin. On peut le recevoir extérieurement. On peut souhaiter quelques-uns des avantages qu'il a acquis sans pourtant le recevoir dans son cœur. Voyez-vous, il est possible qu'il ne fasse rien de cœur pour Christ. Vous, peut-être, qui écoutez maintenant, qu'il n'ait pour lui, pour Dieu, ni estime, ni respect sincère. Il est même possible qu'il ne lui ait jamais ouvert la porte de leur cœur, mais qu'ils l'aient tenu fermée tous les jours de leur vie, et cela depuis que son salut leur a été pourtant offert gratuitement. Bien que leur cœur ait toujours et en tout temps été ouvert à d'autres, Christ a continuellement été repoussé. Et ils ont été sourds, totalement sourds, à tous ces appels. Ils n'ont donc jamais senti la moindre inclination à le recevoir. Ils n'ont même jamais eu de confiance en lui. Permettez-moi maintenant de vous inviter à réfléchir au grand péché que vous commettez en rejetant ainsi Jésus-Christ. Vous méprisez le grand personnage dont la venue a été préparée de Dieu, et cela depuis la fondation du monde par une suite de dispensations providentielles admirables, et que après tous ces préparatifs, Dieu a envoyé dans le monde son Fils Jésus-Christ, accomplissant une chose jusqu'alors inouïe, c'est-à-dire l'union de la nature divine et de la nature humaine dans une personne. Vous vous êtes rendu coupable de mépris envers ce grand sauveur qui, après cette préparation, accomplit en effet ce rachat et qui, après avoir passé 33 ou 34 années dans la pauvreté, le travail et le mépris, occupé à acquérir la rédemption, finit le rachat en terminant sa vie au milieu de grandes souffrances et qui ainsi par sa mort et en restant pour quelque temps sous le pouvoir de la mort a achevé de tout accomplir pour vous. Tel est, chers amis, le sauveur que vous rejetez et en plus que vous méprisez. Vous faites peu de cas de la gloire de sa personne et de tout l'amour de Dieu en l'envoyant dans le monde et de tout son amour admirable qui s'est manifesté dans l'ensemble de cette œuvre. Vous rejetez donc cette pierre précieuse que Dieu avait établie par ses œuvres admirables pour être une fondation en Sion. Les pécheurs sont quelquefois disposés à s'étonner qu'on considère incrédulité, donc l'incrédulité, qu'on la considère comme un si grand péché. Mais si vous réfléchissez à ce qui vient d'être dit, comment pouvez-vous vous étonner encore? Si ce sauveur est si grand, son œuvre si grande, si de si grandes choses ont été faites en vue d'elle, en vérité, il n'est pas surprenant que pour Dieu, la réjection de ce sauveur soit un si grand crime. Cela est un plus grand crime que les péchés des pires d'entre les païens, oui, qui n'ont, eux, jamais entendu parler de ces choses, et à qui ce sauveur n'a jamais été offert. Chers amis, ce qui a été dit offre l'occasion de faire un grand reproche à tous ceux qui, au lieu de croire en Christ, se confient en eux-mêmes pour obtenir le salut. N'est-ce pas une chose très ordinaire parmi les hommes de prendre sur eux-mêmes d'accomplir cette grande œuvre que Christ est venu accomplir dans le monde et de mettre leur confiance dans les peines qu'ils se donnent pour les choses religieuses, la réformation de leur vie, le renoncement à eux-mêmes et de les recommander à Dieu comme une espèce d'expiation pour leurs péchés. Que ceux-là considèrent trois choses. Primo, quelle grande entreprise que celle dont vous vous chargez quand vous vous mettez à la place du Seigneur. Vous vous confiez en vos œuvres afin d'apaiser Dieu au sujet de vos péchés et de disposer ainsi son cœur en votre faveur. Bien que vous soyez pauvre, indigne, vil et souillé, vous entreprenez d'accomplir vous-même cette grande œuvre pour laquelle le Fils unique de Dieu s'est fait homme et dans laquelle Dieu a été engagé pendant 4000 ans, préparant par les divines dispensations de sa providence la venue de Jésus-Christ qui devait l'accomplir. Voilà donc l'œuvre que dans votre folie, vous supposez ne pas être au-dessus de vos propres forces, comme si vos prières et vos observances étaient suffisantes pour atteindre ce but. Considérez un peu combien est vaine cette idée que vous avez de vous-même. Combien grande est cette arrogance? Oui, combien grande cette arrogance doit paraître aux yeux de Jésus-Christ, à qui cette œuvre a coûté si cher. Il ne peut atteindre le but, lui, personnage si grand et si glorieux, que en traversant une mer de sang et en passant au milieu de la fournaise de la colère de Dieu. Combien vaine doit paraître votre arrogance à Dieu quand il voit que vous, vous imaginez pouvoir suffire, oui, carrément de suffire à vous-même pour cette œuvre, et que vous supposez vos observances, qu'elles soient assez bonnes pour accomplir l'œuvre de son Fils, lui qu'il a été envoyé, employé lui-même, à préparer pendant tant de siècles, en ordonnant dans ce but toutes les affaires du monde. Secondo, si vous avez raison de vous confier, comme vous le faites, dans votre propre justice, alors tout ce que Christ a fait pour acquérir le salut, et tout ce que Dieu a fait depuis la fondation du monde pour préparer la voie, est absolument inutile. Votre propre justice impute à Dieu la plus grande folie, puisqu'il aurait fait inutilement toutes ces choses pour obtenir un résultat que vous seul, aux soins que vous apportez aux choses religieuses, vous êtes parfaitement en état d'obtenir, car si vous pouvez ou pouviez apaiser la colère de Dieu et vous recommander à lui de cette manière-là, alors vous n'avez nul besoin de Jésus-Christ. Si la justice, c'est uniquement par la loi, alors Christ est donc mort inutilement, selon Galates chapitre 2, verset 21. Chers amis, si vous pouvez obtenir ces choses par vos prières et vos bonnes œuvres, Christ aurait pu se dispenser de se donner tant de peine. Il aurait pu épargner son sang. Il aurait pu rentrer dans le sein du Père sans venir dans ce monde méchant pour être méprisé, insulté et persécuté jusqu'à la mort. Dieu n'aurait pas eu besoin d'opérer tant de changements dans l'état du monde pendant 4000 ans pour accomplir ce que vous pouviez faire vous-même en quelques jours au moyen de quelques cérémonies religieuses. Quelle plus grande folie auriez-vous pu imputer à Dieu que de prétendre qu'il aurait fait toutes ces choses inutilement, puisque au lieu de faire tout cela, il aurait pu vous appeler et vous, on peut dire, et vous, comment faut-il dire, vous charger carrément de ce qu'il vous semble si facile à vous de faire. Or, hélas, quel n'est pas l'aveuglement de l'homme naturel? Et surtout, combien est vaine, sont toutes les idées, ces idées qui se fait que vous vous faites de vous-même, comme vous ignorez sa petitesse et sa souillure. Quelle chose grandiose l'homme prétend pouvoir faire lui. Et tierceau, vous qui vous confiez en votre propre justice, vous vous attribuez l'honneur, oui, l'honneur, des plus grandes choses que Dieu ait jamais faites. Non content de vous croire en état d'accomplir des œuvres divines, vous êtes assez orgueilleux et assez vain pour vous attribuer les plus grandes œuvres que Dieu lui-même ait jamais faites. Vous voyez par ce qui a été dit combien Dieu a subordonné toutes ses autres œuvres à celle de la rédemption. Les œuvres de la providence, elles sont plus grandes que celles de la création. Et toutes les œuvres de sa providence, depuis le commencement des générations humaines, ont eu pour but de préparer la voie à la rédemption. Il vous est donc beaucoup plus difficile d'accomplir votre rédemption qu'il ne le serait pour vous de créer un monde. Quelle figure vous feriez si vous entrepreniez sérieusement de créer un monde, aussi vous drapant dans votre majesté, vous prétendiez prononcer une parole puissante, tirer un monde du néant et vous écriez que la lumière soit, qu'il y ait une étendue, etc. Mais réfléchissez donc que en essayant d'accomplir, vous, votre rédemption, vous entreprenez une plus grande chose et que vous êtes sérieux en le faisant et qu'on ne peut vous dissuader de cette entreprise-là. Vous faites des efforts, vous êtes plein de la pensée que vous êtes suffisant pour cette œuvre et vous avez l'espérance de l'accomplir. Oui, vous prenez sur vous d'accomplir la partie même la plus difficile de cette œuvre, à savoir le rachat. Ô Christ, écoutez bien, ô Christ a pu accomplir d'autres parties de cette œuvre sans qu'il lui en coûtât rien, mais cette partie-là lui coûta tout de même la vie et des peines et des douleurs sans nombre. Et c'est pourtant là, c'est là la portion que des hommes dans leur propre justice se proposent d'accomplir, comme je viens de l'expliquer, pour eux-mêmes. Si tous les anges du ciel avaient été suffisants pour cette œuvre-là, Dieu aurait-il fait tout ce qu'il a fait pour la réaliser? Et aurait-il jamais envoyé dans le monde son propre Fils, le Créateur des anges, pour faire et souffrir ce qu'il a fait et souffert? Voyez-vous, les personnes dans leur propre justice prennent sur elles-mêmes précisément cette œuvre que Jésus-Christ accomplit quand il fut dans l'agonie. Oui, rappelez-vous, dans l'agonie qu'il a sué du sang pendant il est mort sur la croix, ce qui est le plus grand événement dont les anges ont jamais été témoins. Et elle l'est. Il s'imagine pouvoir faire cette œuvre, oui, cette œuvre que Dieu a fait pour nous. Voyez-vous le sacrifice que Jésus-Christ a fait de lui-même au milieu de ses souffrances? Cela a été le plus grand acte de folie dont les anges et les hommes aient jamais été témoins, au lieu d'être la plus magnifique, on peut dire la plus magnifique manifestation de la sagesse et de la grâce divine. Oui, chers amis, d'après la propre justice, tout ce que Christ a fait pendant le cours de sa vie, tout ce qu'il a dit et souffert, son incarnation même. Non seulement cela, mais tout ce que Dieu a accompli par les grandes dispensations de sa providence, et cela depuis le commencement du monde, ne serait donc qu'une scène de la plus grande et de la plus extrême folie. Non, non, non. Y a-t-il rien d'étonnant qu'il soit parlé dans les Saintes Écritures de l'esprit de propre justice comme de la chose la plus fatale à l'âme de l'homme? Est-il donc surprenant que les Saintes Écritures nous représentent Christ si irrité contre les pharisiens et d'autres qui se confiaient uniquement en eux-mêmes, se croyant justes et s'enorgueillissant de leur bonté et pensant que leur cérémonie avait une valeur suffisante pour leur assurer la faveur et l'amour de Dieu? Voyez-vous, vous qui cherchez le salut et qui vous occupez de choses religieuses, prenez bien garde de ne pas mettre votre confiance dans ce que vous faites. Ne nourrissez pas des pensées comme celle-ci, que Dieu, maintenant, voyant combien vous êtes réformés, combien vous êtes parfois émus, sera réconcilié avec vous et ne sera pas si irrité que cela pour vos péchés passés, que vous obtiendrez quelque chose de lui par ce moyen et que vous disposerez son cœur à la miséricorde avec vous, ou que au moins Dieu devrait accepter, lui, ce que vous faites, pour être dans une certaine mesure disposé à vous pardonner et à vous faire miséricorde. Voyez-vous, si vous pensez que Dieu est obligé de le faire et qu'il n'est pas juste en refusant d'avoir égard à vos prières et à votre travail, si vous contestez avec Dieu, vous plaignant de ce qu'il ne le fait pas, tout cela montre l'idée que vous avez de votre propre justice. Oui, que vous la tenez pour une rançon suffisante pour votre salut et que Dieu devrait l'accepter à ce titre-là. De telles plaintes contre Dieu, de telles contestations, parce qu'il n'a pas égard à votre propre justice, montre très clairement que vous êtes coupable d'arrogance au point de penser que vous êtes en état d'acheter carrément votre salut. Voyez-vous, ce qui a été dit sur ce sujet est un motif de reproche pour tous ceux qui ne font pas de cas, aucun cas du salut qui est pourtant en Jésus-Christ seul. Ceux-ci, ils mènent une vie sans aucun but. Ils négligent la religion et les intérêts de leur âme. Ils ne s'inquiètent nullement de Christ, ni de ce qu'il a fait et qu'il a souffert, ni d'avoir part à ce salut glorieux qu'il a acquis. Ils ont la tête pleine des affaires de ce monde. Ou bien ils sont absorbés par les plaisirs de la jeunesse. Ils font peu de cas de ce qu'ils entendent dire du salut qui est uniquement en Jésus-Christ. Et pour le moment, il n'y prête absolument pas la moindre attention. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous adresser ici quelques questions. Premièrement, tant de prophètes, de rois, de fidèles, se sont tellement occupés de la pensée de cette acquisition du salut qui devait avoir lieu tant de siècles après leur mort, et vous la négligeriez maintenant qu'elle est accomplie. Vous avez appris quel grand cas l'Église de tous les siècles a fait de la rédemption à venir de Christ, avec quelle joie ils l'ont attendu, comment ils en ont parlé, comment ils ont étudié et sondé ces choses, et comment ils ont chanté des cantiques de réjouissance, et combien leur cœur s'y est intéressé, bien qu'ils n'ont pas attendu que ce fût accompli avant plusieurs siècles après leur mort. Notez 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12. Que de fois Ésaïe, Daniel et d'autres prophètes ont parlé de la rédemption. Combien leur cœur s'en est préoccupé et combien leur attention et leurs études se sont concentrées sur ce sujet-là. Comme l'esprit de David était absorbé par ce sujet, car il déclara que c'était tout son salut, oui, tout son salut et tout son désir. Notez 2 Samuel, chapitre 23, verset 5. Comme il a employé sa voix et sa harpe pour le célébrer, ainsi que le magnifique déploiement de la grâce divine dont il a été la manifestation. Et tout cela, bien qu'ils n'ont pas accompli cette œuvre comme accomplie, mais qu'ils ont vu, vraiment vu, qu'elle ne serait que longtemps, longtemps après eux. Et avant cela, on peut dire comme Abraham et les autres patriarches se sont réjouis à la pensée de la journée de Christ et de la rédemption qu'ils devaient accomplir. Les fidèles même, avant le déluge, se réjouirent et se sont fortifiés dans l'attente de cet événement glorieux, bien qu'il ne leur apparût que dans un avenir très lointain, et qu'il leur fut révélé à peine et d'une manière si obscure. Ô chers amis, ces choses vous sont annoncées à vous comme actuellement réalisées. L'Église a vu maintenant l'accomplissement de ces grandes choses qu'ils avaient prophétisé avec tant de joie, et on vous montre suffisamment comment ces choses sont accomplies. Car en vérité, je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs justes ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont point vues, et ils ne les ont point entendues, toutes ces choses que vous entendez maintenant, et ils ne les ont même point entendus, c'est-à-dire vraiment pas entendus du tout, selon saint Matthieu, chapitre 13, verset 17. Et pourtant, quand on vous montre très clairement toutes ces choses qui ont déjà eu leur accomplissement, quel peu de cas vous en faites, vous? Combien peu tout cela vous intéresse? Préoccupé de beaucoup d'autres choses, vous ne leur prêtez pas la moindre attention. attention. Car en vérité, votre péché est excessivement grave aux yeux de Dieu. Dieu vous a placé dans des circonstances très favorables pour votre salut, infiniment plus favorables que celles dans lesquelles se trouvaient les fidèles des anciens temps. Il vous a placé sous une dispensation beaucoup plus glorieuse. Il vous a donné une révélation encore plus claire de Christ et de son salut. Et pourtant, oui, vous négligez tous ces avantages. Vous continuez votre vie insouciante comme si rien n'avait été fait, comme si vous n'aviez reçu ni ces propositions, ni ces offres. Deuxièmement, les anges se seront tellement occupés de ce salut par Christ depuis la chute de l'homme, bien qu'il ne les touchât pas directement. Et vous, oui vous, qui en avez pourtant besoin, et à qui il est offert gratuitement, en ferez-vous si peu de cas? Chers amis, vous avez appris comment, dès le commencement, les anges ont été soumis à Christ comme médiateur et comment ils ont été des esprits administrateurs dans cette œuvre. Dans toutes les grandes dispensations dont vous avez entendu parler depuis le commencement du monde, ils ont été actifs et comme des flammes de feu. Oui, ils ont été très prompts à s'employer comme serviteurs de Christ pour accomplir toute cette grande œuvre de la rédemption de l'homme. Et quand Christ est venu, comme ils s'occupèrent, ils se sont vraiment occupés de cet événement. Ils sont allés, rappelez-vous, ils sont allés trouver Zacharie pour lui annoncer la venue du précurseur de Christ. Ils sont apparus à la Vierge Marie pour la prévenir de la naissance prochaine de Jésus-Christ. Ils sont allés trouver Joseph pour le prévenir des dangers qui menaçaient le Sauveur nouvellement né et pour lui indiquer les moyens de pouvoir y échapper. Et comme ils se sont intéressés à la naissance de Christ, la multitude entière des armées célestes a chanté des louanges en disant « Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts, que la paix soit sur la terre et la bonne volonté dans les hommes. » Saint Luc chapitre 2 verset 14. Plus tard, le temps à autre, de temps à autre, pendant que Christ a été sur la terre, les anges l'ont servi également, au moment par exemple de la tentation, à l'occasion de son agonie dans le jardin, à sa résurrection et à son ascension. Toutes ces choses montrent très clairement que les anges s'occupaient beaucoup de cette œuvre. Et les Saintes Écritures nous disent qu'ils les étudient avec soin. Ces choses dans lesquelles les anges désirent de regarder jusqu'au fond, et dans l'Apocalypse, oui, dans l'Apocalypse, on les représente comme étant occupés dans les cieux à chanter les louanges de celui qui siège sur le trône et de l'agneau. Or, ces anges se sont occupés tant de la rédemption et du rédempteur, eux, pourtant, qui n'en ont pas besoin pour eux-mêmes, qui ne sont en rien intéressés d'une manière immédiate dans la chose. Et vous, oui, vous à qui je parle maintenant, à qui elle est offerte gratuitement, et qui vous en avez un si grand besoin pourtant. Vous n'en feriez-vous pas de cas du tout? Vous négligeriez? Vous pouvez vraiment négliger de vous en occuper? Je vous le demande. Troisièmement, Christ a tellement travaillé et souffert pour procurer ce salut-là, et vous ne vous donnez pas la peine de vous en acquérir? Christ s'est intéressé à notre salut au point de se faire homme et de souffrir la mort pour l'acquérir. Et vous qui avez besoin de ce salut-là, qui sans lui vous êtes condamné à périr éternellement, ne prendrez-vous pas la peine de vous en occuper maintenant que tout est prêt? Et quatrièmement, le grand Dieu des cieux aura attaché assez d'importance à cette œuvre pour bouleverser plusieurs fois le monde afin de la préparer, et lorsque elle est accomplie, il ne vaut pas la peine de s'en enquérir. C'est ce que vous pensez, je répète. Le grand Dieu des cieux aura donc attaché assez d'importance à cette œuvre pour bouleverser plusieurs fois le monde entier afin de la préparer, cette œuvre. Et lorsque elle est maintenant accomplie, il ne vaut pas la peine de s'en enquérir. Oh là là, quelle chose grande et pourtant admirable n'a-t-il pas fait Jésus-Christ? Il a renversé et il a établi des rois. Il a suscité plusieurs peuples. Il a mis à part un peuple particulier. Il a renversé des nations et des royaumes. Il a changé souvent la face du monde. Pendant 50 siècles, il n'a cessé d'amener révolution après révolution dans le but de tout préparer pour ce salut. Et maintenant, au temps marqué, le grand sauveur est venu subir une longue suite de souffrances et d'injures, de s'exposer à toute la colère de Dieu contre les péchés des hommes, et cela au point que son âme en a été accablée. Après que toutes ces choses ont été faites pour le salut des pécheurs, ne regarderez-vous pas ce sujet comme assez important pour ne pas le négliger complètement, et ferez-vous encore passer avant lui tous vos intérêts terrestres, votre luxe, vos plaisirs de jeunesse et d'autres choses tout aussi futiles? Oh, vous, chers amis, qui négligez ce salut, si vous pouviez réfléchir à ce que vous faites, ce qui a été dit à ce sujet doit vous montrer combien l'apôtre a raison de s'écrier: comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux chapitre 2, verset 3. Ô Seigneur, permets que ma voix tienne le coup jusqu'au bout. Merci pour ce miracle. Chers amis, Dieu considère ceux qui rejettent le salut, qu'il offre pourtant gratuitement. Il considère cela comme de grands ennemis, comme si vous étiez des grands ennemis de la croix de Christ, et comme les adversaires qui méprisent la gloire de cette grande œuvre. Et si Dieu a fait tant de cas du salut, qu'il a détruit plusieurs nations pour préparer la gloire de son Fils bien-aimé qui devait éclater dans cette œuvre, combien peu de cas fera-t-il, croyez-moi, de la vie et des âmes de 100 millions d'adversaires, comme vous, qui persévérez dans votre impénitence, si votre bonheur est contraire à cette gloire. Il est donc certain que vous serez mis en pièces comme le vase d'un potier, et vous serez foulé aux pieds comme la boue des rues. Par suite de son admirable patience, Dieu peut supporter pendant quelque temps encore des pécheurs endurcis et négligents, mais il ne sera pas longtemps à supporter ceux qui méprisent son cher Fils et de son grand salut, dont la gloire lui tient tellement à cœur avant de les consumer entièrement, sans remède et sans miséricorde. Je terminerai cette étude en encourageant toutes les âmes travaillées et chargées à placer leur confiance en Christ pour leur salut. Quant à ceux qui ne sont ni insouciants ni négligents, mais qui font de la recherche de Christ leur principale affaire, qui sentent dans une certaine mesure le besoin qu'ils ont de lui et qui sont effrayés de la colère à venir. Tout ce qui a été dit sur ce sujet et qui a été fait pour les encourager beaucoup à remettre au Seigneur Jésus-Christ le soin de leur âme, eh bien je vous présenterai deux considérations en particulier qui doivent vous porter à le faire. Primo, la plénitude du rachat qui a été accomplie. Vous savez que cette œuvre de rachat a été entièrement terminée pendant le temps de l'humiliation de Jésus-Christ. Quand Christ a ressuscité des morts et est sorti de cet abaissement auquel il s'était soumis pour notre salut, eh bien le rachat de la vie éternelle a été terminé. Il n'y avait plus rien à faire. Mais les serviteurs ont été envoyés avec ce message. Voici, j'ai apprêté mon dîner. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Saint Matthieu, chapitre 22, verset 4. Aussi, vos péchés sont-ils grands et nombreux? Voilà Christ, il a fait assez. Il a fait assez pour vous en procurer le pardon. Vous n'avez besoin donc d'aucune justice propre pour obtenir le pardon et la justification. Non, vous pouvez venir librement, sans argent et sans aucun prix. Puisque une invitation si libre et si miséricordieuse vous est adressée, eh bien venez. Venez donc tous comme vous êtes. Venez comme un pauvre criminel condamné. Venez et jetez-vous, s'il vous plaît, aux pieds de Jésus-Christ comme un homme justement condamné et impuissant. Voici donc un salut complet, accompli par Jésus-Christ, qui vous est offert par son moyen. Venez donc, s'il vous plaît, et acceptez-le, et soyez sauvés. Et secondo, pour terminer, pour Christ, rejeter un de ceux qui viennent ainsi à lui ce serait rendre inutiles toutes ces grandes choses que Dieu a accomplies depuis la chute de l'homme jusqu'à l'incarnation. Je répète, pour Christ Jésus, de rejeter un de ceux qui viennent ainsi à lui, ce serait rendre inutiles toutes ces grandes choses que Dieu a accomplies depuis la chute de l'homme jusqu'à l'incarnation. Cela rendrait donc également inutile tout ce que Jésus-Christ a fait et a souffert pendant qu'il était sur la terre. Il y a plus encore. L'incarnation elle-même serait ainsi rendue inutile. Toutes ces grandes choses ont été faites pour que ceux qui viendraient à Christ puissent être sauvés. Vous pouvez donc être assuré que Jésus-Christ ne se refusera pas à sauver tous ceux qui viennent à lui et qui se confient en lui, car il n'a nul désir de se rendre inutile, lui et son œuvre. Dieu le Père ne vous repoussera pas non plus, car il n'a pas le moindre désir de rendre inutile tout, absolument tout ce qu'il a fait pendant tellement de centaines et de milliers d'années pour préparer le salut des pécheurs par Jésus-Christ. Venez donc, oui, venez, prêtez l'oreille à l'appel doux et sérieux que Jésus-Christ adresse à votre âme. Agissez conformément à son invitation et à son commandement. Venez à moi, est-il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Et chers amis, maintenant, je voudrais vous donner encore quelque chose pour votre propre édification et aussi pour votre encouragement. L'amour est créateur. L'amour, c'est la fleur. L'amour, c'est la semence qui a donné naissance à la fleur. L'amour, c'est le sol qui la nourrit. L'amour, c'est le soleil qui lui permet de s'épanouir. L'amour, c'est le parfum qu'elle répand. L'amour, c'est l'œil qui en discerne la beauté. Et c'est pourquoi Dieu est amour. De lui procède toute connaissance, toute intelligence et tout ce qui suscite en nous le bien. C'est à tous que doit aller votre amour. Il doit donner à votre action sa qualité bien spécifique. Si vraiment Jésus est devenu votre Seigneur et si vous prétendez de le suivre, sa bannière qui le couvrait était amour. Ces mots n'expriment pas seulement pour vous la certitude d'une protection absolue, ils vous lient aussi et doivent inspirer toute votre action si vous servez avec lui en soldat dévoué à leur capitaine. Il importe donc que vous soyez toujours à nouveau rendu conscient de vos obligations spécifiques en face du monde où vous vivez. C'est au nom de l'amour, en effet, que vous allez de l'avant. C'est au nom de l'amour que vous devez triompher. C'est l'amour que vous devez mettre là où il n'est pas. Il est pour vous l'arme de choix. Il est pour vous la seule vraiment nécessaire. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur, tu as été recherché par ceux qui ne s'informaient pas de toi, et tu as été trouvé par ceux qui ne te cherchaient point. Tu as dit à la nation qui ne s'appelait point de ton nom, « Me voici ». Mais aussi tu as étendu tes mains pendant tout le jour vers le peuple rebelle, vers ceux qui marchent dans le mauvais chemin après leurs pensées. Seigneur, tu as appelé et nous n'avons point répondu. Tu as parlé et nous n'avons point écouté. Mais nous avons fait ce qui te déplaît et nous avons choisi les choses auxquelles tu ne prends point de plaisir. C'est pourquoi tu nous déclares que tes serviteurs mangeront et que nous aurons faim, qu'ils boiront et que nous aurons soif, qu'ils seront heureux, qu'ils se réjouiront avec des chants de triomphe et que nous crierons à cause de l'amertume de notre esprit. Éternel, à qui regarderas-tu? À celui qui est humble, qui a l'esprit brisé et qui tremble à ta sainte parole. Éternel, tu te réjouiras sur ton peuple et on n'y entendra plus aucune voix de pleurs. Celui qui souhaitera d'être béni sur la terre se bénira par le Dieu de vérité, car les afflictions précédentes seront oubliées. Tu as promis de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tu viens pour rassembler toutes les nations et elles verront ta gloire. Avant que tes élus crient, tu les exauceras. Et lorsqu'ils parleront encore, tu les auras déjà entendus. Que l'Éternel montre donc sa gloire. Écoutons la sainte parole de l'Éternel. Amen. Amen. Et chers amis, souvenez-vous que Dieu vous aime. Et il est de mon devoir de vous aimer intensément, de tout mon amour. Et maintenant, je vous embrasse tous avec vraiment toute ma sincérité. Et je dis, soyez bénis, soyez bénis, soyez heureux et surtout, continuez de marcher avec celui que vous connaissez maintenant toujours mieux. Alléluia. À bientôt à nouveau, mes très, très chers amis. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette longue série. Il y en a encore. Et maintenant, j'essaie de vous mettre quelques chants d'un très, très lointain passé, 1962. Et en ce temps-là, évidemment, il n'y avait pas de CD. J'ai fait cela avec un appareil à bande qui s'appelait le Revox. Et évidemment, la qualité n'est pas du tout à comparer à aujourd'hui, surtout qu'il y a si longtemps de cela. Écoutez bien.